Dominique Simusiak, bonjour, vous êtes sur Radio Campus. Dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Matisse, le musée Matisse organise une exposition exceptionnelle qui a pour titre « Devenir Matisse ». Je tiens aussi à vous dire que vous êtes l'ancienne conservatrice de ce magnifique musée du Cateau-Cambrésis, musée Matisse. Alors, si vous le permettez avec vous, j'aurais aimé aborder la partie déclic, si je puis dire, enfin vous me reprendrez sur les termes, hein, de Matisse quand il découvre Belle-Île-en-Mer. Mais avant ça, il y a eu une période qui a été moins favorable. La première fois qu'il est allé à Douarnenez, il continuait dans les dégradés. On peut le dire comme ça ?
Alors, ce n'est pas Douarnenez, la première fois qu'il...
C'est Pont-de-Croix.
Il va à Pont-de-Croix, mais effectivement, il visite Douarnenez, mais ça n'a pas d'importance. On n'est pas tout à fait dans la même région bretonne. Mais ce qui compte, c'est effectivement pourquoi, en 95, alors qu'il est à l'atelier de Gustave Moreau depuis déjà 4 ans, qu'est-ce qui se passe pour qu'il aille peindre en Bretagne ? Alors, il y a un grand mouvement vers la Bretagne. Hein. C'est une époque où les peintres de Pont-Aven, puis la peinture de plein air aussi. Peinture de plein air. Qu'est-ce que c'est la peinture de plein air ? Et Matisse croyait que ce serait aussi facile que de peindre les bords de Seine. Il ne s'attendait absolument pas aux grandes difficultés qu'il allait trouver dans ce premier endroit qu'il va visiter, qui
est à la fois sauvage et intime.
Il faut voir aussi qu'il y avait des trains donc qui permettaient d'aller jusqu'à Quiberon. De là à Quiberon, on prenait un bateau pour aller jusqu'au palais, qui est le port de Belle-Île. Et je pense qu'il a essuyé une belle tempête. Et qu'il s'est demandé, mais vraiment, comment est-ce qu'on peint la mer et le ciel dans ces conditions. Il arrive et ça ne se calme pas. Il est au palais et il est complètement affolé. Il ne comprend absolument pas comment il va peindre la mer et le ciel. Il connaît les peintures précédentes qui l'ont précédé, les peintres qui l'ont précédé. C'est-à-dire, il a fait la copie d'un tableau de Ruisdael, il connaît la peinture de Bouddha, par exemple, ou de Courbet, mais dans ses peintures, le temps est arrêté. La vague est arrêtée, la vague de Courbet est arrêtée, la vague de Ruisdael est arrêtée. Et donc, au bout de 10 jours, il dit qu'il est complètement effrayé, il quitte Belle-Île, femme et enfant, et avec son copain Émile Véry, ils partent plus en profondeur dans la Bretagne. Ils vont vers la pointe du Raz et effectivement, ils vont s'arrêter à Pont-Croix. Là, il va visiter Audierne, Douarnenez, la pointe du Raz, etc. Il ne sait toujours pas comment peindre la mer et le ciel. Et là, il va peindre des scènes d'intérieur et des scènes de campagne, des scènes très calmes, de la nature, et tout ça dans des quémailleux. Quémailleux, c'est-à-dire des dégradés de beige, des dégradés de gris, des bleus très très pâles, des couleurs très très assourdies, très atténuées. C'était les couleurs de Corot, c'est les couleurs avec lesquelles il était très familier, parce que Matisse ne va pas plonger dans les couleurs comme ça un beau jour. Ça va être un long cheminement. Et ce passage par la Bretagne est fondamental pour comprendre comment il va commencer à comprendre l'utilisation de la couleur dans la peinture. On est en 1895, c'est donc la première année à Belle-Île. Et il retourne à Paris, il va faire des scènes d'intérieur, il va continuer à copier au Louvre, il va copier l'Arrêt de Chardin, il va copier David Dehaene, il va faire des copies, continuer à copier, puis faire des scènes d'intérieur, peindre sa femme dans son intérieur, une scène de chapeau de forme, avec un chapeau de forme, etc. Des scènes bien gentilles, ça ne bouge pas, c'est immobile. On est dans des gammes de marron, de gris, de bistre, etc. On est devant un paysage très très calme. Deuxième été, il repart en Bretagne avec toujours Émile Véry. La première fois, il était parti avec d'autres copains belges parce qu'il se forme un petit groupe de musiciens à l'école des Beaux-Arts. Et là, il va prendre une chambre. Alors, attendez, doucement. Il va prendre une chambre d'abord dans le port de Belle-Île, au-dessus de la partie, l'arrière-port, à hauteur de l'écluse, face à la citadelle, et il va peindre les barques. Et il peint un tableau où il écrit « début de saison ». Donc on est bien, il y aura le tableau « fin de saison ». C'est-à-dire
bien
trois mois
plus cheminement.
Tard. Et là, il va passer trois mois, on est en 1896. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. À Belle-Île, il y a un peintre qui s'appelle John Peter Russell, qui est un Australien.
Qui, à la palette courte.
À la palette courte, mais palette de couleurs vives, de couleurs pures, de tubes. Enfin, il faut savoir quand même qu'ils ont un matériel assez utile, enfin, vraiment aujourd'hui, à ce moment-là. Et donc, il va aller à côté de Peter Russell. À Carilawen, c'est-à-dire qu'il va traverser Belle-Île dans, vers le sud, vers la côte sauvage, l'endroit le plus sauvage de l'île. Mais c'est l'endroit où Monet est venu passer trois mois et où il a peint, accompagné de Peter Russell, en 1896, c'est-à-dire 10 ans précédemment. Et là, Matisse va découvrir comment on peint à la méthode impressionniste. Ça veut dire que le peintre capte les petites variations colorées qu'il va poser sur sa toile, donnant une vibration sans dessin. Il n'y a que la couleur, et la couleur qui est formée de petites touches juxtaposées avec l'utilisation du blanc de la préparation de la toile qui donne la lumière. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre ça.
Oui, alors je ne peux pas dire la couleur pure sur la toile, parce que pas à ce moment-là encore.
Non. Il faudra attendre l'été d'après. Encore un été.
Il fallait des étapes intermédiaires.
Là, il est comment peint Monet. Monet est le premier peintre à peindre la mer en mouvement et donner cette sensation de vie, de mouvement dans l'eau. Il y a un tableau de Monet l'exposition. Qui vient du musée de Reims, qui est tout à fait extraordinaire, qui est peint dans ces rochers de Porcoton, avec cette technique que Monet met au point. Monet a peint surtout la Normandie précédemment, et là, il est confronté à une mer qui est très violente, qui est très déchaînée, et des rochers très violents. Et les rochers, il va les mettre en mouvement, il va mettre l'eau en mouvement. Tout va vivre dans les tableaux de Monet. C'est vraiment très, très nouveau.
Monet, c'est être tard au départ, on peut dire.
Et oui, mais être tard, c'est encore assez calme, c'est figé. On n'est pas devant la tempête.
Ah, pas du tout.
Comme à Belle-Île. Ouais, il va, voilà. Donc, il va peindre cette mer comme Monet, dont il voit des tableaux, probablement au moins un tableau chez Russell. Et Russell peignait, lui aussi, avec cette technique. Et Russell va mettre de plus en plus de couleurs dans sa toile, voilà. Mais donc Russell va montrer à Matisse les emplacements où était Monet, et Monet va aussi, pour la première fois, peindre ses séries, c'est-à-dire le même tableau à différentes heures du jour, tout simplement parce qu'il n'a pas le temps de finir le premier tableau, qu'il est déjà embarqué dans une autre étape, etc., etc. C'est le début des séries. Et Matisse aussi va s'y mettre. Il va peindre des tableaux en série à ce moment-là.
Mais très influencé donc par Monet.
Allez, complètement. Là, il apprend.
Là, il est.
C'est l'apprentissage. Et on voit très bien dans l'exposition ce que veut dire le mot apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va chercher chez Chardin ? Qu'est-ce qu'il va chercher chez Monet ? Qu'est-ce qu'il va chercher ? Et il s'en sert. Moi, je vous explique ce qu'il va chercher chez Monet. Il va chercher l'utilisation de la lumière, du blanc, de la touche fragmentée qui crée le mouvement, et pas l'absence de dessin, et l'uniformisation du tableau, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant la vague qui est sur un fond, etc., mais bien une surface dans laquelle tout la même importance. Ça va être une obsession, une idée forte pendant toute sa vie. Et donc, il va peindre la campagne, il va peindre la mer. Il va peindre la mer, d'ailleurs, dans des tableaux qui ne sont pas très, très bons. Hein. Ce n'est pas des chefs-d'œuvre. Non, ce n'est pas des chefs-d'œuvre. C'est des petites toiles, en plus, très petites. Et des scènes d'intérieur aussi. Enfin, quelques scènes d'intérieur qui sont là, est pour moi, extrêmement intéressante et importante, parce qu'on en a ici une tout à fait remarquable dans l'exposition, qui est la serveuse bretonne, où on voit très bien à la fois l'influence des peintres hollandais, mais aussi de cette recherche, comment la lumière, les objets captent la lumière. Il y a une troisième étape, qui est l'année suivante, où Matisse revient, et déjà à cette époque-là, en 97, à la fin de l'été, puisqu'on a un tableau qui s'appelle « Fin de saison », déjà, il y a une liberté de tracer, non pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ressent. La valeur, c'est-à-dire le dégradé de gris et de blanc, etc., mais la juxtaposition de couleurs sur des surfaces déjà beaucoup plus grandes. L'été suivant, il revient, repasse 3 mois à Belle-Île, et là, il peint comme il l'entend. C'est-à-dire qu'il va mettre des rouges et des verts très violents sur la toile. Il va peindre la couleur, il va peindre la mer avec force, avec brutalité. Il va peindre des paysages dans lesquels le dessin aura disparu. À la limite, on ne sait plus. D'ailleurs, les impressionnistes, le public, quand il a vu les impressionnistes, il ne comprenait rien. Hein. On a refusé les impressionnistes au Salon National en 1870. Donc, on est, bien entendu, 20 ans plus tard, mais là, Matisse fait ce qu'il veut.
Il est devenu Matisse.
Entre-temps, il a fait la connaissance de Pissarro, des peintres de Renoir, la peinture de Renoir, de Monet, etc. Il a compris que la couleur était une force, que la couleur pouvait rentrer dans le tableau, construire le tableau, et que le peintre était celui qui allait mettre sur la toile, non pas ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent.
Ce qu'il ressent.
Et ça, c'est fondamental. Et il va faire des tableaux, à ce moment-là, assez extraordinaires. Qu'il va ramener, évidemment, à Paris. Il va revenir à Paris, il va revenir plus sage. Et il sait qu'il ne faut pas qu'il reste à Paris, qu'il faut qu'il bouge absolument. Et il part en Corse. Il part 6 mois en Corse. Et en Corse, il a besoin de Paris parce qu'il a besoin de vendre, il a besoin de ses copains, il a besoin du milieu parisien.
Des C'était déjà Paris, ça voilà, encore aujourd'hui.
Voilà. Et il part 6 mois en Corse. Et là, la Corse, il dit qu'il part comme il l'entend, il est complètement libéré. La révélation de la lumière du midi est un choc inouï. Et là, il voit la couleur pure. Il la voit, alors qu'en Bretagne, il ne l'a pas vue. D'accord. Il l'a utilisée, mais il ne l'a pas vue.
Voilà, mais c'est ça, il a fait ses gammes, si je peux dire, enfin, il a fait ses armes. D'ailleurs, c'est pour ça que je parlais un petit peu d'un côté académique. Il a toujours quand même, c'est là-dessus où il a justement fait ses copies, il a suivi un enseignement, quand même. Il s'est forcé de le faire, peut-être. Peut-être que ça ne lui convenait pas, mais il l'a quand même fait. Mais après, quand il a intégré tout ça, il s'est libéré, quoi. Moi, je le ressens comme ça, Matisse, mais...
Alors, ici, on insiste beaucoup sur les premières années,
voilà,
d'accord.
Ici, on est sur les 20 premières années.
On n'est même pas sur les 20 premières années. Ouais, hein, il commence en 91, il commence à peindre en 91. Il peint comme on peignait à l'époque, hein, de toute façon. Hein, il rentre dans un premier atelier chez Bougreau et Ferrier, où il dit, mais c'est n'importe quoi. Bougreau repeignait éternellement le même tableau devant ses élèves, il dit c'est n'importe quoi, moi je veux pas continuer là-dedans.
C'est Moreau
qui va les ouvrir. Et là, il a un terrain extraordinaire, c'est le Louvre. Le Louvre, et il va quand même fréquenter le Louvre pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'il a 6000. Matisse avait une mémoire visuelle phénoménale, comme tous les peintres, hein, faut pas se poser de questions. Il a assimilé tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire il va emmagasiner les peintres hollandais, les primitifs, les peintres flamands, bien sûr, les natures mortes de Chardin, parce que ça c'est un sujet qui est facile à retraiter chez soi, quoi. Et puis, après, il va voir les autoportraits de Rembrandt, etc., et se poser des questions par rapport à la notion de portrait, par rapport à la notion de paysage, oui, mais... Il sait très bien que les paysages de Corot, par exemple, sont un temps qu'il faut absolument dépasser. Parce que dans les paysages de Corot, lui, il ne va pas pouvoir s'exprimer. Il va peindre comme Corot au début. Puis après, ça ne va pas durer.
Écoutez, Dominique Fessac, moi, je vous remercie beaucoup. vous avez parlé de cheminement tout au début de l'entretien. Et vous nous y avez vraiment amené. On a bien senti ce cheminement. Et je vous remercie.
Je vous invite à ma conférence, comme ça vous verrez les images.
Absolument, merci.